Aujourd'hui, à la balado Sportaide, tête à tête avec Danny Dubé. Bonjour, Danny.
Bonjour, Sylvain.
Ça va bien?
Très bien. Ouais. Très bien, merci.
Merci d'être avec nous. C'est grandement apprécié.
Puis là, je suis content d'être là parce que je me fais un devoir d'avoir un plan chaque jour. Je dis à ma femme, ça me prend un plan aujourd'hui parce que sinon, là, le confinement, c'est très difficile. Donc, vous êtes mon plan aujourd'hui.
Bien, on est vraiment très content. On va faire une mise en garde tout de suite.
OK.
Aux gens qui nous écoutent. On ne parlera pas du Canadien de Montréal aujourd'hui.
Parfait.
On n'est pas là pour ça. mais on a un intérêt commun chez Sportaide et toi. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a une multitude de sujets, je pense, qu'on pourrait aborder. Et puis tantôt, je me préparais puis je me disais comment je débute. Et je pense qu'on va débuter avec ton livre, un de tes deux livres, intitulé « C'est l'enfant qui compte ». Le titre, pour nous, dit tout. Il est évocateur chez Sportaide. Parce que nous, chez nous, dans notre travail de tous les jours, on se dit constamment qu'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas un trophée qui vaut la santé d'un enfant. Et quand on voit le titre de ton livre, qu'on le parcourt, on se dit « faut prendre une heure pour jaser avec Danny ». Alors, pourquoi ce livre-là?
Mais déjà, juste peut-être faire une mise en garde pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, c'est que moi, je ne suis pas un granola du sport. Moi, je crois vraiment aux résultats. J'aime la compétition. Je pense que c'est important. J'ai participé toute ma vie. J'ai été dans la compétition. J'ai aimé ça. Je ne fais pas partie de l'élite, mais j'ai une mentalité de bagarreur. Je veux réussir les choses quand je les fais. J'essaie d'être ambitieux dans la vie. Pour moi, ça, c'est important d'être mentionné parce que des fois, les gens galvaudent les choses. Ils pensent que parce qu'on veut protéger l'enfant, qu'on va l'empêcher de se dépasser, qu'on va l'empêcher d'avoir des échecs, qu'on veut le dorloter. Moi, c'est pas ça du tout l'approche. Moi, je refuse de troquer l'équilibre contre un résultat. Je refuse de troquer l'épanouissement personnel contre un résultat. Je refuse de troquer l'estime de soi contre un résultat. J'ai toujours dit à mes enfants, en les encourageant dans le sport, un résultat, ça ne te définit pas. Ça ne dit pas qui tu es, un résultat. C'est comme à l'école. Ça ne dit pas, tu as une mauvaise note à l'école, ça ne dit pas qui tu es. Ça te donne seulement une lecture sur un passage. Puis un passage, des fois, c'est nécessaire. Puis l'échec, c'est bon. Si tu sais t'en servir. Puis habituellement, tu sais te servir de l'échec. Si tu t'es préparé avant de vivre ton évaluation, ta compétition, ton événement. Si tu n'as pas eu de préparation avant, bien, on sait déjà que la première étape de l'analyse de cet échec-là, ça va être de dire, la prochaine fois, il faut être préparé. Et quand tu seras préparé, on va avoir des réponses aux résultats. Ça ne veut pas dire que le résultat va être à la hauteur de tes attentes, mais on sait qu'on va avoir un résultat qu'on va pouvoir évaluer, qui va nous permettre de grandir. L'idée du livre, c'est de poser une question aux parents, froidement. Pourquoi vous faites faire du sport à vos enfants? Êtes-vous capable de répondre à cette question-là? Parce que, on se l'est posé, Isabelle Audet, qui a fait la rédaction, qui est une journaliste, mais qui est aussi une maman engagée, émotive, ancienne sportive, impliquée, quand je dis émotive dans tous les bons sens du terme, là, très engagée. Isabelle et moi, on avait commencé à faire des chroniques à la presse et sur le sport et la famille. Donc, vraiment. Et déjà, on a eu beaucoup de réactions, toujours très vives, des bonnes, des moins bonnes. Mais de façon générale, les gens... Non, c'est des chroniques.
OK, sur les chroniques.
Des chroniques, des sujets très précis. Qu'est-ce qu'un bon coach? Le coach lève le ton contre mon enfant, c'est-tu correct? En fait, je me fais crier après, c'est normal. Je me fais écœurer dans la chambre, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pas capable de réussir telle affaire, puis il y a personne qui m'aide, puis je fais rire de moi, puis bon... Comment on fait pour choisir un capitaine dans une formation? Les assistants, ils servent à quoi? Écoute, c'est important d'avoir des patins neufs absolument chaque année. Il y en avait des affaires à jaser. Donc, on a fait des chroniques comme ça pendant presque 2 ans. Et malheureusement, c'est toujours la même affaire. C'est une question de disponibilité, budget, etc. On a arrêté de les faire, mais... Isabelle m'a toujours dit, Danny, j'ai tellement de réactions sur mes courriels à moi, puis je sais que t'en as. Pourquoi on fait pas un livre. Ben, je dis, écoute, gardons ça en tête. Un jour, à un moment donné, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est quoi, je refeuilletais nos affaires, on devrait faire un livre.
Qu'est-ce qui déclenchait cette envie-là chez toi?
Bien, déjà, c'est que j'étais sorti du... de mon parcours de papa bénévole. Mes enfants étaient vraiment sortis du sport. Puis j'avais des réflexions.
De quel type?
Bien, si t'as des discussions avec tes enfants, à un moment donné, tu sais... mon garçon qui me dit « Pourquoi tu ne m'as pas poussé plus? » Puis
tu répondais quoi à ça?
Ben j'ai dit « Ça m'a brisé le cœur qu'il me dise ça. » Mais en même temps, je lui ai dit « Écoute, moi, je suis là pour te supporter, pas pour te pousser. Si la passion n'était pas là, au moment où tu croyais que j'aurais dû, moi, t'insuffler ça, moi, j'ai essayé, puis il y a un bout qui t'appartenait, qui ne m'appartenait pas. » Mais j'ai dit « Tout ce qu'on a vécu ensemble là-dedans, ben ça nous sert aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que tu sois passionné. C'est que moi, je sois là pour te supporter. Fait que ce que tu n'as pas vécu comme joueur, tu peux le vivre autrement. Puis, ça a été un long périple à l'intérieur de moi, tu sais, de moi avec moi-même.
Parce que la ligne est mince, là, dans ce que te mentionne ton
oui,
garçon. Là,
oui.
La ligne est fine.
Fine, là. Très fine. Puis, et toutes ces interrogations-là m'ont forcé, moi j'appelle ça mon voyage intérieur, à faire un voyage intérieur, puis à discuter de ça avec Isabelle en me disant, bon, mais c'est quoi tes attentes quand tu fais faire du sport à tes enfants? Quelles sont tes attentes? Tu sais, quand ma fille est venue au monde, là, notre premier enfant, moi j'ai changé ma façon de coacher, là.
Ah oui? Pourquoi?
Bien, parce que là, tout à coup, je n'étais plus seulement un entraîneur. Là, j'avais une responsabilité morale qui m'avait jamais autant interpellé. C'est-à-dire que l'athlète que j'ai devant moi, il a des parents. Moi, je coach un individu. Cette personne-là, il faut que je sois capable de voir autre chose que la performance sportive. Parce que un jour, la personne va arrêter d'en faire du sport. Ma fille fait du sport. La personne qui va être son entraîneur, il faut que je sois en harmonie là, avec cette personne-là. Il faut même que je sois capable de faire équipe avec cette personne-là. Je peux pas. C'est important. Donc, j'ai changé ma façon de voir l'athlète parce que j'étais un parent. C'est bizarre. Pourquoi? Je pense d'être quelqu'un d'assez logique, mais c'est comme ça m'a frappé en plein visage. J'ai dit, waouh, hey, attends, là, moi, j'ai des comptes à rendre à des parents. Puis je veux que le produit final, à la fin, que je sois fier de ce qu'on a eu comme cheminement ensemble, puis que ça l'a aidé à progresser, puis à devenir une meilleure personne, puis à poursuivre, tu sais, puis...
Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu t'es mis à faire d'une manière différente à partir de ce moment-là?
Bien, écoute, c'est très subtil, mais ce sont des choses que tu deviens un petit peu plus paternel dans l'approche. Oui. Donc, tu es beaucoup plus en... Tu observes des choses qu'un parent pourrait observer. C'est-à-dire... Est-ce que la personne semble heureuse? Est-ce qu'elle semble s'épanouir? Est-ce qu'elle semble avoir sa place dans le groupe? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle est assez stimulée? Est-ce qu'elle est assez valorisée?
Il y a des coachs qui écoutent ça et doivent dire il y a ramolli dans le fond.
Ouais, ben c'est une façon de voir les choses. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir des standards d'excellence élevés. Puis ça ne m'a jamais empêché d'être très exigeant. D'ailleurs, je dirais à ceux qui nous écoutent, que je m'amusais toujours à dire à mes joueurs, même je l'ai dit à mes enfants aussi. Je disais, est-ce que je te tombe ses nerfs? Tu sur ton dos pas mal, je te tombe ses nerfs. Hein? Fait que des fois, il y en a qui finissaient par craquer puis dire, ouais, tu m'énerves pas mal. Mais je t'énerve parce que je fais ma job. Je te pousse parce que j'y crois. J'y crois là, on est ensemble là-dedans, là. Puis là, t'as besoin d'une petite poussée. Alors, croyez pas que je suis incohérent, là. C'est pousser quelqu'un tous les jours, ça marche pas. C'est ce que j'avais dit à mon fils à l'époque. Je peux pas te pousser tous les jours. Je peux te pousser une journée, mais je suis plutôt là pour te supporter.
La mise en garde que tu as faite en introduction, j'étais content de l'entendre parce que nous, quand on s'exprime devant des groupes ou avec les médias, c'est toujours un peu la même chose que je viens rappeler aux gens. Nous, chez Sportaid, on ne veut pas exclure la performance. Là. On reconnaît que la performance a sa place, mais pas au détriment des règles, des individus, du sport en lui-même.
C'est ça.
Une fois qu'on a mis la table là-dessus, comment on peut aller de l'avant? Mais moi, ce qui me renverse tout le temps, c'est on tient ce propos-là, les gens sont devant toi, puis ils concèdent tous que ça a bien de l'allure ce que tu dis, on est d'accord avec ce que vous apportez. Mais pourquoi, dans le feu de l'action, les gens oublient cette bonne volonté?
C'est une bonne question.
Pourquoi, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe?
Bien, en fait, c'est les attentes au départ. Donc, ça revient, nous ramène au livre. Nous, Isabelle et moi, on a trouvé trois éléments qui étaient fondamentaux. Trois, on va appeler ça des vecteurs, des axes de développement. Nous, on s'est dit, pour que mon enfant s'épanouisse, ait du plaisir dans le sport, il faut qu'il y ait du fun. La première chose, c'est le plaisir, surtout en bas âge, c'est de cultiver cette espèce de côté bon enfant du sport qui est là. Alors, et trop de structure, ça étouffe le plaisir. Donc, on a à gérer ça comme entraîneur, mais aussi comme parent. Il faut s'assurer, nous, comme parents, qu'on n'étouffe pas le plaisir. Toute cette notion-là. Parce que les enfants vont le trouver d'une manière ou de l'autre, puis ils vont le trouver ailleurs que dans le sport.
Pourquoi tu penses que les parents étouffent le plaisir comme ça? Ils ont oublié qu'ils ont été des enfants.
C'est ça. Les attentes. Ça nous ramène à la question fondamentale. Est-ce que tu t'es vraiment demandé pourquoi tu fais faire du sport à tes enfants? Pourquoi tu fais faire du sport à tes enfants? Donc, souvent, tu poses cette question-là, les gens n'ont pas pris le temps d'y répondre, puis leurs enfants sont déjà 3-4 ans avancés dans un sport, puis tu te réalises que la plupart du temps, ils ont introduit leurs enfants dans un sport qu'ils ont eux-mêmes pratiqué, puis qu'ils connaissent, où ils se considèrent comme des spécialistes de ce sport-là. Bon, ça va, je peux comprendre ça. La deuxième chose que tu veux que tes enfants fassent, tu veux qu'ils évoluent, qu'ils apprennent des choses. Pas juste sur le plan technique, mais à propos d'eux-mêmes, à propos de la vie, à propos de ce que c'est un groupe.
On l'oublie trop souvent.
Tu sais, de collaborer, faire ta place dans l'équipe, comment tu fais pour trouver ta place, de te définir comme personne. Le qui suis-je, là, nos enfants, il faut leur donner la chance de se trouver, les aider à se découvrir. Ben, ça veut dire peut-être pratiquer plusieurs sports, ça veut dire peut-être parler à plusieurs types d'environnement, pas toujours être cerné dans le même groupe, puis d'avoir une place, puis finalement, t'étouffes tellement dans ce groupe-là, t'es tellement plus bien que tu lâches le sport parce que tu lâches le groupe, parce que tu lâches une condition qui te plaît plus, mais les parents voient pas ça comme ça, t'sais, ils disent « Ah, t'as commencé, tu vas finir, puis c'est comme ça, puis c'est une question de principe », mais c'est parce que on est mélangé dans les affaires. Puis nous, ce qu'on essayait de faire avec le livre, c'est de démêler ces affaires-là. Donc, le plaisir, l'apprentissage, puis la socialisation. Parce qu'on vit en société, parce qu'on vit en groupe, parce que la tolérance, c'est important, parce que le mélange, le jumelage des compétences, c'est essentiel, que le mix des différences, c'est gigantesque comme pouvoir quand c'est bien utilisé. Alors, toutes ces affaires-là, ça imprègne ton équipe, ton groupe, mais il faut que tu le cultives. Donc, ça nous ramène aux attentes des parents. Et souvent, les attentes des parents ne sont pas conformes avec celles des enfants.
Oui, effectivement.
Donc là, tu as une dualité. Tu as les enfants d'un bord, puis tu as les parents de l'autre bord. Et en plus, tu as un entraîneur. Et là, l'entraîneur, qu'il soit bénévole ou professionnel, lui aussi a ses appréhensions, ses craintes, ses attentes, ses ambitions. Alors, tout ça a créé une espèce de d'écosystème qu'il peut avoir des clashs. Ça fait que, moi, je pense que quand t'es parent, c'est important de bien définir au départ de pourquoi tu leur fais faire du sport. Et nous, la réponse conjointe, donc le livre est là-dessus, Isabelle et moi, c'est nous, on fait faire du sport à nos enfants pour l'après-sport. Donc, pour ce qu'ils vont devenir après le sport, de ce qu'ils vont être capables d'utiliser.
C'est hyper intéressant ce que tu amènes là, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a un taux de décrochage qui est vraiment important dans le sport actuellement. Et on oublie, justement, l'après, on n'y pense pas. Je te laisse poursuivre, là, mais ça, là, c'est vraiment important. Puis les gens, ils ne le réalisent pas. Puis c'est toujours ce qu'on se demande chez nous. Comment on va arriver à faire réaliser aux parents, aux gens, cette situation-là qui n'a pas de bon sens. Leurs attentes sont démesurées. Ils voient leurs enfants comme des fonds de pension. Ils se trompent tellement.
Oui, mais il y a la gloire, mais il y a aussi le statut social, il y a la forme de réussite, le faux élitisme. Tu as plus d'argent, ça fait que tu places tes enfants dans les meilleurs groupes. Fait que c'est un petit groupe élite régionale qui représente pas vraiment de l'élite. L'élite, on le sait, là, c'est tellement minime dans la société. Ce que les parents doivent se demander, c'est est-ce que je veux le bonheur de mon enfant? Puis est-ce que je veux le bonheur de mon enfant lorsqu'il va devenir un adulte, quand il va arriver dans la société, il va se réaliser comment? Qu'est-ce qu'il va prendre du sport pour l'amener dans la vie? À quoi ça va y avoir servi d'être le meilleur scoreur dans le Pee-wee 3A s'il n'est pas capable de travailler en équipe? Parce qu'il mangeait à poc quand il était Pee-wee, puis tout le monde l'applaudissait. C'était extraordinaire. Il est arrivé midget, t'es plus capable de compter de but parce que là, il y avait la mise en échec. Mais jamais personne ne l'a préparé à ça, à jouer collectivement, à se rendre compte que son talent, c'était plus que marquer des buts, qu'il pouvait faire des passes, qu'il pouvait jouer collectivement. Puis d'ailleurs, ça donne bien parce qu'à l'école, il est peut-être moins bon dans certaines disciplines. Fait qu'il peut peut-être demander à quelqu'un de l'aide. Ben non, hey, on fait pas ça, on demande pas de l'aide. Je peux pas demander d'aide.
Le parallèle que tu fais avec le milieu scolaire, je le trouve super intéressant. Puis en parcourant le livre, c'est ce qui me venait aussi. Pourquoi on a autant d'attentes sur nos jeunes sportifs?
Pas à l'école.
À l'école, on n'a pas ces attentes-là. La majorité des gens n'ont jamais les mêmes attentes en milieu scolaire avec leurs enfants. Et pourtant...
Oui, mais tu sais, ça revient au même. C'est que, dans le fond, les attentes par rapport au scolaire... Tu sais, on est dans un monde d'instantanéité. Donc, ce qu'on veut, c'est le résultat là. Donc, l'école, on dit, ah, ben, on va attendre. Là. Quand il va arriver à l'université, on s'intéressera à ses notes, là, parce que là, on paye, de toute façon, ça va coûter cher. Puis... Mais tu sais, le développement général qui passe par l'école, d'apprendre à apprendre, c'est pourquoi tu vas à l'école? Tu sais, dans le fond, là, tu t'arrêtes, tu dis, pourquoi tu vas à l'école? T'as un peu eu là, ben, apprendre des... Non. Mais oui, t'apprends à compter. Mais t'apprends à quoi? T'apprends à apprendre. Parce que tu vas apprendre toute ta vie. Si t'apprends pas à l'école, t'apprendras pas dans la vie. Normalement, tu devrais avoir... Et là, tu te rends compte que les gens apprennent de différentes façons, que c'est comme le cheminement. Tu sais que... Moi, on a eu deux enfants, puis les deux ont eu un cheminement différent. Dans le sport, on a eu des progressions différentes. D'ailleurs, on peut parler des dates de naissance. Juste le fait d'être 6 mois plus vieux ou 6 mois plus jeune, ça te permet de faire partie de l'élite ou de pas faire partie de l'élite, à cause que le système qui est en place est basé sur des dates précises. Et c'est un enjeu majeur, parce qu'en jeune âge, si tu as 12 ans, puis tu es venu au monde au mois de janvier, puis tu joues dans la même équipe que l'autre qui est venu au monde au mois de décembre, bien, je m'excuse, là, mais c'était pas dans la même catégorie du tout à 12 ans. Là.
Ben non.
Puis c'est pour ça que tu vois des... Moi, je jouais Pee-wee, puis j'avais un de mes chums, il avait de la barbe. Puis oui, moi, j'avais de l'air d'un ver de terre à côté de lui. Là. Mais là, je le regardais, puis je disais, t'as-tu la même âge que moi? Il me disait, ben oui.
Mais ben, c'est pas drôle, hein, au fil des années, on est encore dans là-dedans. Ce modèle-là.
Ben oui.
Qu'est-ce que ça va nous prendre? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y ait un redressement, qu'on change ces choses-là qui nous sont évidentes quand on en parle, puis évidentes depuis des années, mais c'est encore là.
En fait, c'est que là, on est dans un contexte où tu sais, les parents sont très, très impliqués. Ils mettent beaucoup d'énergie, de l'argent, le cœur. Les gens, ils ont le cœur à bonne place. Mais je pense que leur attention n'est pas à la bonne place. Dans le sens que pourquoi on met des classements? Pourquoi on fait des... on donne des championnats? Puis on fait toute l'année un même sport. Pourquoi on joue, on fait pas 2-3 sports dans une année? Pourquoi on n'est pas en mesure de changer les critères d'évaluation d'une performance sportive en bas âge? Pourquoi on laisse pas les jeunes plus vivre des expériences sur des plus courtes périodes puis de changer les groupes puis travailler avec... Parce que T'sais, tu regardes les groupes élites à 15 ans, dans leur n'importe quel sport, surtout les sports collectifs, puis tu regardes à 20 ans, tu prends une lecture, puis écoute, t'as une surprise. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Puis de 13 à 15, puis de 15 à 20, écoute, c'est... Les cheminements sont différents, tout est différent. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Moi, je veux des expériences positives. Je veux m'assurer que l'environnement va me permettre de grandir comme athlète. Donc, si, je veux que mes parents me placent dans un bon environnement. Mm-hmm. Puis je veux être stimulé. Tu sais, je suis pas dans un local, moi, à l'école, à faire une matière toute l'année. Là.
Mais non.
Je fais plein de matières.
Mais tu sais, quand on parle du multisport, on partage chez Sportaid la même pensée. Mm-hmm. Mais il y a quand même un défi, parce que quand tu es un jeune joueur de tennis, puis que tu regardes les grands joueurs, Nadal, Federer, mm-hmm. ils ont, je pense pas qu'ils aient fait beaucoup d'autres sports, puis ils ont vraiment sur-spécialisé dans leur sport. Il y a beaucoup de modèles mm-hmm. de réussite, que c'est des gens qui ont... spécialisés dans leur sport. Alors, comme jeune, tu vois ça, puis comme parent, tu dis, ben c'est là qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire, ces grands modèles. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. On devrait aller vers le multisport parce qu'on le sait que les avantages sont là. Comment on peut arriver à convaincre les gens que le multisport, c'est l'enseigne où il faut être avec nos enfants?
Ben j'ai eu... moi aussi, j'ai ma balado, un coach à l'écoute. Puis dans un coach à l'écoute, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en perspective la science à l'intérieur justement de ces fameux préjugés-là, d'avoir des études, de faire parler soit des intervenants, soit des gens qui ont des expériences, puis aussi des scientifiques. Puis de plus en plus, la science valorise le multisport. Puis j'ai eu une balado avec Patrice Bernier, qui lui a fait deux sports élites. Donc le soccer et le hockey. Puis il a décidé de faire un joueur de soccer. Les racines. Son père avait joué au soccer. Mm-hmm, c'était plus fort que lui. Il aimait le soccer. Puis je pense qu'il y avait l'appel. Tu sais, mais bon. Il aurait pu jouer au hockey probablement aussi. Peut-être qu'à l'époque où il était joueur de hockey, peut-être qu'il voyait moins de chances de réussite dans le hockey, mais c'est un joueur élite quand même. Mm-hmm. Il joue au junior, c'est un joueur élite. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que la prochaine génération, là, avec l'arrivée du multisport, le multisport est de plus en plus présent dans les écoles au Québec, au Canada, déjà aux États-Unis depuis longtemps. Quand on regarde les phénomènes américains, on voit de plus en plus d'athlètes qui sont super athlètes dans plusieurs sports. On le voit, là. On les voit arriver à échéance dans un sport parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Mais quand on s'intéresse à leur parcours, on voit qu'ils auraient pu faire un joueur de baseball, un joueur de basketball, un joueur de soccer. Il va faire plusieurs sports en athlétisme. Donc, c'est juste un choix. C'est un choix, c'est les parents qui devront choisir. Puis nous, et les parents, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire de Patrice Bernier, c'est qu'il dit « J'aurais jamais été capable de faire les deux sports si mes parents s'en étaient pas mêlés. » Parce qu'il y avait un tiraillement constant entre les organisations. Fait que lui, il dit « Mon père, puis ma mère, surtout mon père, à un moment donné, il est allé voir, puis il dit « Écoute, il va faire les deux sports. » Si tu veux l'avoir dans ton équipe, tu tolères certaines choses. Puis ça, c'est bien parce que la présence parentale a fait qu'à un moment donné, il y a eu une conciliation. S'il y a une volonté, il va y avoir conciliation. S'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas de conciliation. Si la personne dit « Hey, nous autres, tu viens chez nous, tu fais un choix. » Nous, ça nous est arrivé avec ma fille, entre le soccer et la natation, puis elle a fait son choix, puis c'était tout. Après, elle a joué au soccer dans régional, là, dans une petite ligue, puis c'était correct. Elle n'a pas fait de compétition plus élevée, mais elle aurait pu, mm-hmm. si elle avait fait le choix. Bon, en tout cas, tout au moins pour un certain temps. Je ne sais pas ça l'aurait mené où, mais elle avait fait son choix. Parfait. Donc, moi, je pense que les fédérations doivent s'intéresser à la lourdeur de leur calendrier. Comment faire cohabiter des calendriers simultanément?
Mais certaines ont commencé à se parler là, ici au Québec.
Ça a commencé. Ouais. Mais c'est encore, il y a encore beaucoup de résistance auprès des... Et cette résistance vient de la part des entraîneurs élites qui veulent avoir leur athlète. Alors, Quand tu es un entraîneur élite, c'est super important le recrutement parce que meilleurs sont les athlètes, meilleures sont tes chances de réussite. Alors là,
c'est
évidemment.
C'est bon pour les ambitions.
Et c'est bon pour les ambitions. Et c'est un peu normal lorsqu'on est tributaire des résultats. Parce que là, quand tu montes, c'est ça. Donc, il faut faire une distinction très claire entre ce qui se passe dans les petites catégories puis ce qui se passe vraiment dans l'élite lorsqu'on dépasse le provincial. Quand on arrive, là, les meilleurs de la province, là, on commence à parler de l'élite. Mm-hmm. Bon, quand tu es rendu au niveau national, je pense que normalement, tu es rendu à un temps où tu as déjà fait un choix. Mais avant ça, là, dans tout ton cheminement, les parents devraient être présents et permettre à leurs enfants de vivre plus qu'une expérience sportive. L'expérience de Patrice Bernier, puis le balado le dit, c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Je regarde aussi plusieurs équipes composées, surtout aux États-Unis, parce que maintenant, il y a beaucoup de prep school qui, donc, comme des polyvalentes chez nous, là, des écoles secondaires, qui... sont basés, leur approche est basée sur le multisport. Donc, toi, Sylvain, si tu vas t'inscrire à un de ces collèges-là, on va dire comme ça, tu vas dans une institution comme celle-là, tu auras à t'inscrire en sport individuel et collectif. Tu auras à faire trois choix. Donc, tu vas faire dans ton année trois sports. C'est sûr, en partant. Donc, ça, c'est génial parce que c'est une structure qui est comme ça. Donc, et tu as un sport majeur. Donc, on sait que tu es prédestiné au tennis, c'est ça que tu aimes le plus, puis c'est là-dedans que tu performes le plus, mais tu vas quand même apprendre à jouer au golf parce qu'il y a des éléments de transfert de poids et tu vas apprendre le sport collectif aussi. Donc, tu vas jouer au volleyball. Donc, c'est toi qui as choisi tes autres sports. Puis là, ben, on essaie de prendre des éléments et les transférer d'un sport à l'autre. On le sait qu'un athlète, c'est un athlète. Une fille qui est bonne en sprint, c'est sûr que si tu lui donnes un ballon de soccer, tu commences à lui montrer un peu de latéralité, elle va flyer avec le ballon. L'important, c'est qu'elle soit capable de se déplacer latéralement. Là, on le sait qu'elle a les bonnes fibres musculaires, l'explosion est là, la technique de course. Après ça, c'est comment on se déplace latéralement, comment on est capable de jouer sur l'accélération, les sorties, les impulsions, les sorties de virage avec un ballon, et tout ça, parce que là, il y a un objet. Là. Donc, il faut qu'elle maîtrise l'objet. Mais tout ça, c'est graduel. Donc, le sport, c'est ça. Puis... Tu sais, c'est parce qu'à la fin, là, ils n'en feront plus de sport, de la compétition. Et ça va être des individus dans la société, puis ces gens-là vont faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils vont prendre de tout ça, puis ils vont amener dans leur vie au quotidien? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de retenir d'une défaite crève-cœur qu'ils ont anéanti pendant une semaine, qui était en petite boule dans leur chambre? Non, mais tu sais, ça t'arrive, là.
Ben oui, ben oui.
Fait que moi, j'ai été en petite boule, puis à un moment donné, j'ai relevé, puis encore aujourd'hui, ces moments-là, quand t'en ressors, t'es encore plus fier. Et pour ça, il faut que ce soit pas juste l'enfant, il faut que les parents soient là, puis il faut qu'ils fassent équipe avec le coach, puis c'est comme un petit cocon que tu bâtis, puis t'essaies de les faire grandir à travers ça.
Écoute, Danny, moi, je voudrais pas que les gens pensent qu'on veut faire le procès des parents. C'est pas ça notre intention du tout. Mais tu sais, quand je nous entends parler, je pense à ton livre, je pense à ce qu'on fait chez Sportaid, puis que d'autres organisations font aussi. Il y a des journées, je me lève, je me dis, les gens qui devraient te lire, qui devraient nous écouter, qui devraient consulter nos outils, c'est pas eux qui te lisent, qui consultent nos outils. <C'est ça. rire> Comment on va y arriver à rejoindre ces gens-là? Ouais. C'est un défi, là.
Oui.
Des fois, tu te dis, est-ce que je prêche dans le désert?
En fait, non, on ne prêche jamais dans le désert. Jamais. En tout cas, moi, j'ai le privilège d'avoir quand même des plateformes, des tribunes, tout ça. Ça fait que je le vois pas comme ça. T'as raison que, bon, les gens lient moins qu'avant, les gens sont pressés, on est dans l'immédiat, on veut avoir un résultat rapidement. D'ailleurs, trop souvent, les gens vont placer leurs enfants dans un endroit en particulier, puis se comportent comme un consommateur. Ça me coûte tant, je veux un résultat, tu sais. Mais non, tu choisis l'environnement, tu choisis pas un résultat, tu choisis un environnement. L'environnement, c'est la place où ton enfant va se développer le mieux, va s'épanouir le mieux, va grandir le mieux, deviendra une meilleure personne à cause de cet environnement-là. T'espères qu'il va retourner dans cet environnement-là comme un ancien plus tard parce que, ou une ancienne.
Il a eu une belle expérience.
J'ai eu une belle expérience, je veux la partager, je veux peut-être faire du mentorat avec des jeunes parce que j'ai tellement aimé mon école. Si je peux t'aider à réussir, waouh, tu sais, parce que j'ai passé là. Ça, c'est de l'héritage. Pas, hey, j'ai eu 95, j'ai eu la meilleure note. Ben, c'est parfait si tu l'as eu. On est content de ça. Mais il ne faut pas que ce soit la destination finale. Il faut que ce soit plus que ça. Donc, je suis un peu dans le même état d'esprit par rapport à moi, ce que je fais. T'sais. Mais en même temps, je vais profiter de la tribune pour quand même envoyer une forme de cri du cœur. Moi, je pense que c'est... Il faut que nos instances politiques disent, OK, quand les parents inscrivent leurs jeunes dans le sport, ils ont besoin d'une petite formation. Tu sais, là, tu deviens parent, ils te donnent un livre, là, ils te disent, OK, voici ce que c'est. Non, mais c'est vrai, ils donnent le livre. Ils disent, voici ce que c'est être parent. Il faudrait que tu apprennes au moins les premières étapes de la vie, là, que tu n'as pas de surprise, qu'est-ce que l'enfant va être, les choses qu'il va vivre dans les premiers mois de vie. Ça va t'aider. Tu sais, à un moment donné, tu vas appeler ta mère quand même, puis ton père, puis tes amis pour savoir comment ça, qu'ils pleurent tout le temps. Là, on a changé ici, puis il y a toujours, tu sais, il y a de la difficulté. C'est banal, là, mais c'est ça. Mm-hmm. Tu arrives dans une nouvelle job, tu as quelqu'un qui t'accompagne pendant quelques semaines, puis tu as montré le travail, tu as un petit peu d'accompagnement, tu as une formation de base. On place nos enfants dans le sport. On pense qu'on les place dans le sport, et qui vont tout savoir, les parents vont tout savoir, le bon comportement, etc., que ça va bien aller avec les... Non, ça ira pas bien avec les entraîneurs. Il va y avoir des enjeux. Il va y avoir des enjeux aussi avec d'autres parents. C'est de l'humain. Il va y avoir des situations conflictuelles. Il va y avoir des situations où l'équipe réussira pas. Il va y avoir peut-être des situations où votre enfant sera pas bien. Comment vous pouvez faire pour gérer ça? Ben, moi, je pense que il devrait y avoir un programme existant pour ça. Que la première, toutes les fédérations, toutes confondues, organismes, t'envoies ton enfant à une place, voici ce que c'est. Ça peut être des capsules vidéo, ça peut être du matériel audio, ça peut être sous forme de livre. Tu peux l'avoir en différentes versions. Mais assurons-nous d'aider les parents, d'avoir un accompagnement qui permet de dire, OK, les parents peuvent faire équipe avec le coach pour le bien de l'enfant. Mmh. Parce que ce qu'on veut, c'est du développement à long terme. Alors, on a dit un peu plus tôt, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils apprennent à propos de tout, pas juste du sport, mais de ce que c'est le fait d'être en groupe. Parce que même si tu fais du sport individuel, t'es dans une équipe pareille, là. Et puis socialiser, apprendre à socialiser, à trouver ta place, à vivre en équipe. Alors tout ça, là, les parents, quand tu as fait le ménage là-dedans, on veut pas te dire quoi faire, mais on veut t'aider à faire le ménage. Mm-hmm. Tu sais, fais un ménage, là, puis dis, OK, qu'est-ce qui compte vraiment? Puis une fois que mon filtre est bien calibré, bien, c'est facile de laisser rentrer les bonnes affaires puis de faire la distinction entre le signal puis le bruit, tu sais, parce que sinon, il y a trop d'affaires, là. Tu dis, c'est-tu bon, c'est pas bon, je sais pas trop. Puis, écoute, le livre, c'est une option. Fabrice Ville, avec sa fondation, ouais, pour 3 points, fait des choses extraordinaires pour aider les coachs. Puis j'ai souvent eu des discussions avec Fabrice, qui a participé aussi à notre plateforme Play 360. Puis lui, on est d'accord sur une chose, c'est que l'entraîneur, il a un rôle important dans la vie d'un jeune. Mais ça exclut pas le rôle des parents.
Mm-hmm. Ben non. Dans ton livre, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Tu disais que les parents et les entraîneurs doivent faire équipe.
Absolument.
Ça, j'aimerais ça que tu nous expliques davantage. J'ai trouvé ça super intéressant, mais j'aimerais mieux qu'on l'entende de toi que je le résume.
Ben en fait, c'est dans ma conception de l'entraîneur, c'est un spécialiste du sport qui a des préoccupations de faire grandir l'enfant dans le sport. Donc, par le sport, il va le faire évoluer. L'entraîneur veut qu'il réussisse dans le sport, mais normalement, le parent, il devrait vouloir son enfant réussir mm-hmm. par le sport. Pas nécessairement dans le sport, mais par le sport. Si on est capable d'avoir les deux...
Belle nuance, ça.
Et si on est capable d'avoir les deux, on est en business, comme on dit. Mm. Et on sait que ça va être différents niveaux. Qu'il va peut-être plus réussir par le sport que dans le sport. C'est mon cas à moi. Puis c'est le cas de pas mal de monde. Parce mm-hmm. que ceux qui réussissent dans le sport, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Vous savez, là, vraiment réussir dans le sport, il n'y en a pas beaucoup.
C'est minime.
C'est minime. Mm. Mais, tu sais, je pense que ce que les parents doivent apprendre à faire, c'est de ne pas donner tout le pouvoir au coach. Puis ce que le coach doit apprendre à faire, c'est pas de se donner tout le pouvoir puis d'exclure les parents de l'équation. Parce qu'en bout de piste, comme je disais, quand on a eu notre premier enfant, je me suis rendu compte, hey, écoute, c'est précieux, là. Je vais confier mon enfant à quelqu'un. Mais moi, je suis quelqu'un-là qu'on me confie l'enfant, là. Mm-hmm. Et c'est important comment je vais me comporter avec lui, parce que, premièrement, je veux qu'il ait un bon souvenir, puis aussi, je veux qu'il apprenne des choses, puis je veux que ces choses-là lui servent toute sa vie. Alors, je pense que quand t'es un parent, la priorité, c'est le long terme avec ton enfant, pas le court terme. Le long terme. Qu'est-ce qui va ressortir de l'expérience à long terme? Le long terme, c'est le savoir-être. Le long terme, c'est le bonheur. C'est l'équilibre. C'est la réalisation sur le plan personnel. C'est l'accumulation des outils. T'as rempli ton coffre d'outils. Et là, le coach t'a aidé. Ensemble, vous avez enrichi l'expérience, vous l'avez bonifié, fait que le jeune ou la jeune, plus tard, se sert de ça pour son quotidien. Les gens, des fois, se disent, « Ouais, mais comment on fait dans la vraie vie, ça se passe comment? »
Bon. Bon, t'as dit une bonne question,
ça. Mais dans la vraie vie, ça se passe comment, c'est simple. C'est que... Je dis c'est simple, c'est pas vrai que c'est simple. Je m'excuse de le dire comme ça, là, parce que j'essaye pas de rendre quelque chose de complexe simple. Mais j'ai essayé de le simplifier. Et j'ai essayé de mettre une ligne pour que les parents trouvent leur place, puis en même temps que le coach comprenne que la place des parents est essentielle.
Pas tous les coachs qui acceptent ça.
Non, non. Mais je veux dire ceci, c'est que ces coachs-là sont en voie de disparition à cause de la démographie. Je vais y revenir. Moi, là, ce qui compte, c'est le comportement et l'attitude de mon enfant. Qu'il soit capable de... Qu'il joue pas avec le meilleur joueur sur son trio. Que sa situation dans l'équipe, c'est peut-être pas la meilleure situation pour l'instant. Voilà. Moi, ce qui est important comme parent, c'est est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il socialise? Ça, c'est mes trois questions fondamentales. Et à travers tout ça, moi, ce que je veux, c'est développer des habiletés à passer à travers l'adversité.
Mais je t'interromps.
Oui?
Quand tu dis ça, le parent, l'enfant doit s'amuser, socialiser. Mais le parent qui est omnibulé par d'autres choses...
Oui.
Penses-tu qu'il est capable de voir ça si l'enfant s'amuse, s'il socialise, s'il a du plaisir?
Bien, en fait, c'est tout là le fond du débat. C'est que le parent doit regarder toujours à long terme et jamais à court terme. Parce que ce qui est important, c'est que ton enfant se... faut que tu vois que ton enfant s'améliore. Je te donne un exemple. Faut que tu vois que ton enfant s'améliore. S'il ne s'améliore pas, tu te poses la question, as-tu du plaisir? Ben, pourquoi tu me demandes ça, papa? Ben, tu sais, je suis allé voir la pratique, je trouve que tu travailles pas fort. Ouais, c'est plate les pratiques. Ouais, je comprends que c'est plate les pratiques, mais si tu veux, t'aimerais-tu ça qu'on t'a un but? Ah oui, j'aimerais ça, mais j'ai jamais de passe. Mais c'est peut-être parce que tu suis pas le jeu. Tu t'améliores. Plus tu vas t'améliorer, plus tu vas aimer ça. La pratique. Fait que la pratique sportive, c'est une chose. L'amélioration technique augmente la jouissance. L'appréciation, la motivation, le désir de progression, c'est un effet, mais ça vient du jeune. Mm-hmm. Donc, lui, le parent, c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'avoir un cadre, avec des étapes à suivre, de créer cette interaction-là qui est beaucoup plus sur moi. Ce qui m'intéresse, c'est que mon enfant, je sens qu'il progresse, je sens qu'il y a du fun, puis je sens qu'il s'est fait des amis dans le groupe. Si une de ces trois affaires-là ne marche pas, on le sait qu'il y a un problème à quelque part. Mm-hmm. On ne sait pas toujours comment le régler, puis c'est normal. Mais on discute, puis on est en mode solution. Quand les parents sont capables de faire cet exercice-là, puis c'est pour ça que je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement, bien là, ça devient... Là, on dépersonnalise les situations. Mm-hmm. On n'est plus en train de dire, oh, ben, le coach, là, il n'aime pas mon enfant. Il est tout le temps sur le dos de mon enfant. Ou... Quoi d'autre, j'en sais trop. Oh, il donne une préférence à son enfant. Il a du parti pris parce que c'est le coach, puis son enfant joue dans l'équipe. Il l'a nommé capitaine, d'ailleurs. Mm-hmm. Fait que tu vois plein de ces situations-là. Donc ça, tu essaies de mettre en place une façon de faire qui va qui va créer une zone commune qui est le bonheur de l'enfant, mais où quand même le père ou la mère va pas commencer à être en train de dire, ben là, tu sais, quand tu arrives puis tu fais ta volée au filet pour faire ton smash, mais là, tes doigts sont pas bien placés, ça fait que t'as pas de follow-through. Moi, je te l'ai dit, il faudrait que tu mettes plus d'emphase là-dessus, ton épaule. Là, le petit gars, la petite fille, écoute ça, dit, ben j'en ai un, coach. Mm-hmm. Peux-tu juste être ma maman, s'il te plaît? Je le sais que tu as joué pour l'équipe nationale, mais peux-tu juste être ma maman, s'il te plaît? Mm. Tu sais, dans le fond, des fois...
Pour confondre les rôles.
Oui, parce que... Et c'est correct, si l'enfant va avoir des conseils, il va t'en parler, etc. Moi, je m'amusais toujours à dire, à qui tu parles? À ton coach ou à ton père? Il dit, pourquoi tu demandes ça? Ben, c'est pas sûr que tu vas avoir la même réponse. Tu sais, ça, pour un peu dédramatiser tout ça, puis dire, ben regarde, ça reste un jeu. Puis, puis moi, je pense que le fait que le coach, on lui concède l'environnement technique, puis l'environnement de l'équipe, tout en ayant un regard sur les trois aspects que j'ai mentionnés, ça nous permet, comme parents, de maintenir un niveau de vigilance, puis de travailler avec le coach, puis de poser des questions, puis de savoir pourquoi. Mais il faut toujours se rappeler qu'on ne met pas de l'argent dans le sport pour avoir des résultats. On met de l'argent dans le sport pour que nos enfants aient une place pour se développer. C'est une plateforme de développement. Après ça, s'il y a des résultats, ben c'est sûr qu'il va en avoir des résultats, c'est sûr. Mais après ça, si les résultats ne sont pas à notre goût, comme parents, ben c'est peut-être parce qu'on a trop d'attentes par rapport aux résultats puis pas assez pour le reste. Mm-hmm. Parce que moi, ce qui est important, c'est... Mettons qu'il n'y a pas eu le bon résultat, comme on le disait un peu plus tôt. Est-ce que le plan est correct? Est-ce qu'il a suivi un plan? Est-ce que, tu sais, on peut analyser tout ça pour qu'après, il devienne meilleur dans ce qu'il fait? Parce que moi, là, c'est une joke chez nous. C'est devenu un running gag. « Hey, père! Hey, pensez à quelque chose, père, là, je pense qu'on va faire ça. As-tu un plan? » Ah oui, c'est vrai, encore le bâtisse de plan. Mais oui, le maudit plan. Parce que si tu as un plan, tu vas suivre le plan. Puis si ça ne marche pas, tu
optimises tes chances de réussite.
Oui. Puis si ça ne fonctionne pas, tu as des points de repère. Mm. Voici ce que j'ai fait en tel temps. Ça. Puis je suis juste parti avec une idée. Tu sais, j'ai un rêve. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu te réveilles si tu veux l'accomplir le rêve. Parce que sinon, tu dors.
Pour pas mal de personnes qui nous écoutent, tu es l'analyste des matchs du Canadien. Mm-hmm. Mais beaucoup de gens qui oublient ou qui ne savent pas que tu as été entraîneur. Tu as été entraîneur dans la Ligue Junior-Major du Québec, dans la Ligue Midget 3, au niveau universitaire. Tu as été aux Jeux olympiques en 94 avec l'équipe du Canada. Mm-hmm. C'est quoi un bon entraîneur aujourd'hui, en 2020? Ça a évolué, ça a changé. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur? À quoi on devrait s'attendre d'un bon entraîneur?
Je pense qu'un bon entraîneur, maintenant, comprend la démographie, comprend le fait que les familles aujourd'hui, une famille, ça n'a pas le même parcours qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas le même nombre d'enfants. Que les parents sont beaucoup plus surprotecteurs qu'avant, parce que les familles sont plus petites. Souvent, c'est des familles reconstituées, donc il y a des enjeux de communication, puis de cohérence, puis de leadership à l'intérieur des familles, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Puis je suis pas en train de porter de jugement, je fais juste un constat. Donc, le coach, c'est un coach, maintenant, le bon coach, c'est un coach qui dépasse l'aspect technique. Le bon coach, c'est un coach qui a une vision globale de ce que c'est la société. Il est conscient des déficits d'attention. Il a lu là-dessus.
Mais puis il est dans une génération montante qui lui-même, en fait.
Il est conscient de l'instantanéité du résultat, ce qu'on cherche à court terme. Puis qu'on ne voit pas le travail, tout le travail qu'il y a derrière pour arriver. On regarde parce que c'est réseaux sociaux, parce que tout ça fait que tu cliques, puis ah, hey, je trouve ça cool ce qu'il a fait. Je vais le faire moi aussi. Ben, c'est parce que ça fait 10 ans, là. Il vient juste d'y arriver. Ça fait 10 ans qu'il travaille là-dessus. De la persévérance, la notion de persévérance. Ça. Donc, le bon entraîneur, c'est quelqu'un qui a de la perspective puis qui a de la sensibilité. Il est pas seulement dans le système, mais il est dans le... Il est beaucoup dans l'humain, beaucoup plus qu'avant. Avant, on était dans le système, on était dans l'équipe, on était dans la procédure.
Dans le savoir-faire.
Ouais, dans le savoir-faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis pas beaucoup dans le savoir-être. Mm-hmm. Donc, ce qui sortait au bout de l'équation, c'était des fois des super athlètes, mais pas des personnes accomplies. Puis quand je dis des personnes accomplies, c'est que ces personnes-là, qui avaient été des personnes extraordinaires dans leur sport, des athlètes extraordinaires dans leur sport, sortaient du sport et étaient complètement perdus dans le quotidien des gens. Ça devrait jamais arriver. Mm-hmm. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
Trouves-tu que nos entraîneurs sont bien outillés pour œuvrer dans ce contexte-là qui a changé, dans cette fonction-là qui a changé, qui change encore?
Bien, c'est en train de changer, mais une des choses que les entraîneurs commencent à apprendre à faire un peu mieux, je pense, c'est de partager les compétences. Tu sais, avant, c'était très cylindrique.
On partageait pas beaucoup.
Tu avais ta petite recette. Puis j'ai fait partie de ces gens-là, j'avais ma recette, puis je me disais, hey, moi, je pense que j'allais la faire, fait que je le dis pas à personne. J'allais dans des conférences puis dans des symposiums, je partageais des petites affaires à gauche et à droite, j'allais en chercher un peu. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'était bien aussi d'aller valider, mais avec des compétences à l'extérieur de mon sport.
Ah, tu vois, Daniel Sauvageau nous a mentionné la même chose il y a quelques semaines.
Puis là, j'ai commencé à parler avec coach de natation, volleyball, les gens avec qui à l'Université de Trois-Rivières j'étais impliqué, rugby, tu sais. Et j'ai appris énormément de
vous partagez sur quoi?
Les valeurs, okay. Comment on enseigne les choses, les concepts. Il y a des concepts, au sens collectif, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Puis comment ils les enseignent, comment ils les valident. La validation, l'entraînement, c'est important. Comment tu fais pour savoir que tu as du succès à l'entraînement ou pas? Tu sais, à part individuellement, c'est plus facile parce que tu as des chronos, tu as des temps, tu as des distances, c'est des choses que tu mesures, mais collectivement, comment tu fais pour avoir ça? Ben, c'est un peu plus compliqué. Fait que on allait voir, puis moi, ça m'a permis d'évoluer en parlant avec des gens d'autres sports. Donc, tu te rends compte qu'un bon coach, c'est un petit peu tout ça. Un bon coach, je pense, c'est une personne qui est épanouie. C'est si vous êtes un parent puis vous cherchez un bon entraîneur, trouvez quelqu'un qui est épanoui. L'épanouissement, quelqu'un qui a une bonne acceptation d'elle-même. Donc, c'est une personne qui va être serein avec des résultats. Si t'es pas épanoui avec toi-même, tu seras pas serein avec un mauvais résultat. T'sais, c'est parce que tu définis des résultats. Puis il faut pas. Ça va plus loin que ça. Puis on parle toujours de sport mineur. Parce que moi, tout ce que je suis en train de discuter avec toi, Sylvain, puis ce qu'on est en train d'échanger, c'est par rapport aux petits bouts de choux qui commencent le sport, aux parents qui les accompagnent, puis à ce qu'ils vont devenir dans la vie, puis comment le sport va les aider à grandir. Parce que après ça, les compétences des entraîneurs sont là. La seule chose le seul conseil que je vais me permettre aux parents, c'est si votre enfant fait partie d'une équipe nationale ou fait partie de l'élite, puis vous pensez qu'il est en de bonnes mains, et donc vous fermez les yeux sur tout ce que vous entendez ou vous voyez parce que vous allez croire que vous pouvez lui nuire si vous intervenez, et vous faites fausse route.
Oui, puis l'actualité récente te donne raison.
C'est depuis des années. Parlez avec vos enfants, restez en contact émotif avec eux. S'ils ne sont pas bien dans quelque chose, il faut que vous le sachiez. Puis avoir un mauvais résultat, c'est pas la fin du monde. D'avoir des discussions avec ton entraîneur, tout ça, c'est tout correct. Mais l'intimidation, écraser, mettre du monde en compétition pour jouer une petite guerre psychologique, c'est... Pour moi, c'est toute la bullshit qui est passée date. Mm-hmm. Quand tu es rendu à faire ça, c'est parce que c'est pas ça un bon coach. Ce n'est plus ça un bon coach.
Écoute, Danny, y a tellement de choses à discuter. On l'avait dit en introduction qu'on va être obligé de faire une deuxième partie. Alors, on va s'arrêter ici, puis on va se donner rendez-vous pour une seconde partie à notre balado.
Une petite gorgée d'eau, moi.
C'est bon. Merci, Danny.